Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Voilà, ce n'est pas une prédication, hein, c'est juste quelques pensées que je veux vous partager. C'est sur le Saint-Esprit. Notre ancien pasteur Yvon a donné des enseignements sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc vous pouvez écouter ces messages sur le site. Je voudrais vous parler plus de la manière dont le Saint-Esprit veut nous communiquer sa pensée de différentes manières et œuvrer au travers de nous pour notre édification et pour l'édification de l'Église. Dans Hébreux, chapitre 1er, au verset 13, il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu a parlé par les prophètes de différentes manières. Et que dans les derniers temps, il a parlé par son Fils Jésus, qui est venu pour vivre et mourir pour nous. Et il a fait héritier de toutes choses. Dans Jean 14, verset 26, alors j'avais noté une version en second, mais là c'est français courant. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans 2 Timothée 3, verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Alors la question, c'est comment lisons-nous la parole de Dieu? En mode lecture rapide, en diagonale, en buvant notre petit noir le matin avant d'aller au travail? Ou bien nous prenons le temps de la méditer pour permettre au Saint-Esprit de transformer la parole logos en parole rhéma, une parole directe pour nous, pour notre édification, qui va nous faire vivre. Et vous connaissez le peuple hébreu qui chaque jour ramassait cette manne qui descendait du ciel. Et notre manne à nous, c'est la parole de Dieu, Jésus qui est venu parmi nous. Alors pour étudier la Bible, il faut un minimum de méthode. On n'est pas tous appelés à être pasteur, à faire des études de théologie. Mais on a à notre portée quelques outils, hein, comme une concordance, un dictionnaire biblique ou un Nouveau Testament en français-grec. C'est important d'avoir ces outils pour bien aller en profondeur. Nous devons aussi avoir un esprit d'enseignement. C'est ce que j'ai lu dans 2 Timothée 3, verset 16. Mais aussi rester enseignable. Même après 20 ans ou 40 ans de conversion, on doit toujours rester dans cet esprit-là. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux m'apprendre? Et aussi au travers de nous, de l'Assemblée. Demandons au Saint-Esprit, qui a inspiré aussi l'écrivain biblique, d'illuminer notre compréhension de la parole. Observer, voir le contexte avant toute interprétation. Le verbe « gauler », « gauler », c'est secouer un arbre pour en faire descendre les fruits, en faire tomber les fruits. Alors, quels sont ces fruits? Nous devons voir le temps des verbes, quel temps ils sont conjugués, les causes et les effets. Je vous donne des références. Apocalypse 2, verset 3. Les comparaisons. Éphésiens 5, verset 22 à 23. Des contrastes. Luc 9, verset 18 à 20. Des répétitions dans la troisième lettre de l'apôtre Jean. Aussi, il est très court ce chapitre. Je vous invite à le lire. Évaluer. Vous connaissez cette phrase, mais où est donc Ornica? Hein? Voilà, ce sont des petits mots, qui, quoi, comment, pourquoi, qui ont leur importance lorsqu'on étudie. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de français. Hein. Il y a assez d'enseignants ici pour... Alors, réalisez aussi que s'il est important d'étudier la parole de Dieu, c'est qu'elle puisse s'imprégner en nous. Ce n'est pas seulement acquérir des connaissances, mais qu'il y ait une réelle implication dans notre vie. Amen. Le psalmiste dit dans le psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Deuxième moyen que le Saint-Esprit veut aussi nous parler, c'est le témoignage intérieur. Témoignage intérieur, c'est quoi? Dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une conviction, une assurance. Il y a quelque chose qui se passe, pas forcément au niveau de l'intelligence, mais nous savons que nous sommes enfants de Dieu. C'est un peu comme si le feu passait au vert. Hein? Si c'est au rouge, là c'est pas bon là. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Alors le troisième mode de communication, enfin, c'est moi qui ai donné une appellation comme ça, j'appellerai, c'est la voix du Saint-Esprit, parce qu'on ne limite pas le Saint-Esprit, il nous parle comme il veut, hein, dans un vent violent ou comme un murmure. Il fait parler même des ânes à Dieu, si on n'écoute pas. C'est la voix du Saint-Esprit qui peut parler d'une manière audible. Vous connaissez l'histoire de Samuel, lorsqu'il était enfant dans le temple, et il y a le sacrificateur Élie, il entend une voix, « Samuel, Samuel !» Il accourt vers le sacrificateur, « Qu'est-ce que tu me veux ?» Il dit, « Va te recoucher, je ne t'ai pas appelé. » Trois fois. Et là, Élie comprend. Il dit, « S'il te parle, tu dis, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et c'est ce qu'il dit à la quatrième fois, d'une manière audible. Mais il n'avait pas l'expérience encore, Samuel. Dans Actes 8, verset 29, l'Esprit dit aussi à Philippe d'aller rejoindre le char de l'Eunuque pour aller l'évangéliser. Il y a l'histoire de Pierre avec la nappe qui descend du ciel et les animaux. Et là, il a cette vision. Et Dieu lui dit, il y a trois hommes qui te cherchent. Va à leur rencontre. C'était pour aller dans la maison de Corneille. Hein? Le prophète Joël, alors là on remonte un peu dans le temps, 400 ans avant Jésus-Christ environ, au chapitre 3, il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. » Il y a des exemples comme Joseph aussi qui a eu des songes, les mages, l'apôtre Paul, Pierre. Et il peut, je pense, nous parler aussi aujourd'hui, en 2020, j'allais dire 21, je ne sais pas pourquoi. C'est la dernière fois qu'il a dû me parler, Seigneur. Je n'avais pas prévu ça. 2025, est-ce que vous croyez qu'il peut vous parler encore de la même manière?
Amen.
Hein? Je crois que c'est important. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Il ne nous demande pas d'être des théoriciens, mais des gens du livre pour mettre la parole en pratique. Le Saint-Esprit veut aussi nous communiquer des dons spirituels de grâce. Alors, dans le grec, c'est traduit par don gracieux. Don gracieux, dans 1 Corinthiens 12. L'Écriture nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Les dons sont donnés pour l'utilité commune et l'édification de l'Église. Alors j'en cite quelques-uns. Je pense que ce sont des dons de manifestation, contrairement aux dons dans Romains, où il y a des dons de motivation. Je fais le distinguo. La parole de sagesse, je vous donne la définition, c'est une parole donnée par le Saint-Esprit à un moment donné pour permettre de faire un choix. S'il y a deux choix et qu'on se trouve là, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Il y a peut-être une troisième solution. Ou mettre fin à un malentendu. La parole de connaissance, c'est une parole accordée par Dieu et permet d'élucider une situation. La foi, ce n'est pas la foi qui sauve, mais c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu dans une action donnée. Dieu va nous donner vraiment cette audace pour faire quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément tout le monde qui a ce don-là de foi, mais il existe. Les dons de guérison, de miracle. La prophétie, celui qui prophétise, édifie, exhorte et console. Là, nous le voyons dans 1 Corinthiens 14, versets 3, 4 et 31. La prophétie. Je voudrais vous donner un court témoignage par rapport à cela. Il y a quelque temps, on était avec ma femme dans une église, on est à Marseille, et dans le temps de prière libre, j'avais comme un fardeau, une prière à exprimer. Ça faisait boum, boum. Mais j'étais là, je ne voulais pas trop. Et je sentais que Dieu voulait que j'ouvre la bouche. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, est-ce que tu peux me confirmer cela au travers d'un frère et d'une sœur? Et bien, quelques secondes après, il y a un frère qui a prié, enfin qui a donné, délivré ce message, mot pour mot, dans ce qui devait être dit. Donc je pense que le Seigneur voulait aussi m'encourager pour aller plus loin et pour ne pas avoir de crainte. Donc, la parole prophétique, dans l'Église aussi, on a besoin. Le discernement des esprits permet de comprendre d'où provient l'inspiration de telle parole ou de tel comportement. C'est discerner au-delà des apparences. Cela permet de discerner si les prophéties entendues sont véridiques ou pas. 1 Corinthiens 14, verset 29. Je pourrais vous donner aussi plusieurs témoignages où le Seigneur a me montré certaines choses par rapport à des personnes, pas dans cette église. C'était quand je travaillais pendant ma pause, j'avais une heure de pause et j'étais dans une, il y avait une église catholique à côté de mon lieu de travail. J'y vais pour me recueillir et prier, voilà. Puis il vient une personne à 1 mètre de moi. Bon, je prie et à un moment donné, le Seigneur me demande de prier pour elle. Je prie. Il me dit, elle est voyante. Cette femme est voyante. Parle-lui. Je dis, oh, quand même, c'est un peu fort. Puis là aussi, je me sentais poussé à lui parler. Alors, j'ai dit, excusez-moi, madame, de vous importuner. j'étais en train de prier et Dieu me montre que vous êtes voyante. Cache. J'ai dit, tant pis, j'ai rien à perdre. Et elle me regarde, elle me dit, vous avez un esprit supérieur. J'ai dit, ah non, je suis un chrétien lambda, je suis comme tout le monde. Elle me dit, si, si. Alors j'ai dit, je vois que si vous êtes voyante, vous venez à l'église pour prier Dieu, il n'y a pas une contradiction là avec votre recherche. Elle me dit, mais dans l'Ancien Testament, les prophètes sont appelés voyants. Allez, allez, Mac. Alors j'ai dit, ben, écoutez, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous lirez Deutéronome 18 et vous verrez un peu ce qu'il en pense, Dieu des voyants. Bon, alors je ne suis pas rentré après trop, j'ai pu témoigner de ma foi, de Jésus, c'était le plus important. Et puis on s'est séparés, je ne l'ai plus revu. Mais voilà, le discernement des esprits. Et je crois que dans l'Église aussi, on a besoin de ce discernement. Et aujourd'hui encore plus que hier. Alors, l'apôtre Paul continue, il y a diverses sortes de langues. Même dans le grec, il dit qu'il y a plusieurs sortes de langues. Alors, vous connaissez celui de Acte 2. Les apôtres sont réunis, voilà, ils prient. Le Saint-Esprit vient sur eux. Et vous avez des gens de toute la région du bassin méditerranéen, je veux dire, hein, de Rome, l'Asie, les Crétois, la Libye, l'Égypte, la Macédoine, la Judée, et j'en oublie. Et ils reçoivent dans leur propre langue le message, les merveilles de Dieu. C'est extraordinaire. Puis il y a le parler en langue, dont parle 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est le seul don, en fait, que celui qui le possède s'édifie lui-même, alors que les autres dons sont pour l'édification de l'Église. Mais l'apôtre Paul, il dit lui-même, « Je veux que vous recherchiez les dons en abondance. » Lui-même, il parlait plus que tous, il parlait plus que tous les autres apôtres en langue, mais ce n'est pas le plus important, c'est celui qui prophétise. Alors il y a une liste de dons, et le parler en langue est en dernier. Mais je crois que ce n'est pas parce que le parler en langue est en dernier de la liste qu'on doit le déprécier ou en le considérer moins important. C'est tout don parfait descend du ciel, du Père des Lumières. C'est lui qui est souverain. Et les dons spirituels, je dirais que ce n'est pas l'attribut des églises charismatiques ou pentecôtistes, mais les dons appartiennent à Dieu et il les donne à son Église avec un E majuscule. Amen. Donc c'est pour tout le monde. Vous savez, je suis issu d'un milieu d'assemblée de frères, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, d'arbistes, et plus étroit que ça, j'ai grandi là-dedans. Je rends grâce à Dieu pour la parole. C'est des gens de la parole. Et je le dis toujours. Voilà. Mais il considérait que les dons spirituels sont arrêtés au temps des apôtres. Hein? À la fin, on n'avait plus besoin. On a la parole. Il y a tout dans la parole. Et cela nous suffit. Il n'y a pas seulement les darbistes, il y a d'autres églises évangéliques. Donc je crois qu'il faut se remettre en question. Je me suis remis en question quand même. Hein. Je suis resté 25 ans, un quart de siècle chez les darbistes. Donc il a fallu que je remette à plat pas mal de choses sur d'autres points de doctrine, ce qui m'a valu une exclusion. Mais alors, Dieu nous demande d'être aussi sages, sobres. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il veut que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous vous prophétisiez. 1 Corinthiens 14, versets 4, 5 et 18. C'est ce que j'ai dit, mais je rajouterai que notre motivation première, eh bien, c'est la recherche du bien de notre prochain et de nos frères et sœurs de l'Église. Donc, quand il résume 1 Corinthiens 13, il a tout dit. Parce qu'un jour, les langues cesseront, la prophétie cessera, mais c'est l'amour qui restera. Amen. Donc, je crois que le Seigneur va encourager cette Église et je vous encourage aussi à rechercher ces dons avec discernement, sagesse, pour le bien de l'Église. On n'a pas des galons, hein. On n'est rien du tout. On est sauvé par grâce. Et c'est Dieu qui pourvoit en toutes choses pour le bien de son Église, pour que Jésus soit glorifié dans l'Église et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça a été court. Je vous propose un chant, Viens Saint-Esprit, ceux qui le connaissent. Saint-Esprit.